Jean-Louis Sago du Vorou, bonjour.
Bonjour.
Grand conférencier de l'Académie initiatique des savoirs différenciés, présent ici à la 6e édition du Festival international Borso Ezeka, placé sous la thématique de la mémoire et du patrimoine. Et du coup, l'une de vos interventions apportées hier sur la problématique de comment sortir ou de sortir de la muséographie occidentale et investir les musées vivants, nouvelles technologies, nouveaux enjeux, nouveaux métiers et changement de paradigme. Quel contenu réel mettez-vous dans la notion de musée vivant?
La question, le musée est une institution de l'histoire culturelle de l'Occident. Correspond bien à son histoire. Ici, à Ezeka, dans le milieu Bassa, quand on donne son nom, si on veut donner tout son nom, ça remonte jusqu'au XVIe siècle. Un Français qui donne son nom, c'est vraiment le temps présent. Donc le passé, d'une certaine manière, n'a pas besoin d'être rendu vivant. On peut aller le voir enfermé, on sait que c'est derrière nous. Ici, dans la façon de penser des gens, il y a déjà cette réalité qui existe, c'est-à-dire le passé est animé. Il a une âme qui continue à vivre, ne serait-ce que quand on prononce le nom. Et il y a un deuxième très gros problème qu'a l'Afrique en général, c'est la délégitimation de son histoire et de son patrimoine. Par exemple, on va dire l'Afrique n'a pas d'histoire, etc. Donc il faut relégitimer les institutions locales, etc. Et ces institutions, elles ont été transmises de père en fils, de mère en fille, et c'est des gens qui les portent. Donc si on veut retrouver ça, il faut peut-être tout simplement aller montrer un musée et faire constituer une bibliothèque, disons, d'images, de documents, etc., qui fasse vivre ça. Et aujourd'hui, les nouvelles technologies, notamment la technologie de la réalité virtuelle, permet vraiment d'avoir des choses extrêmement saisissantes. Donc ça répond à ce problème. L'autre problème aussi, c'est qu'un grand nombre d'objets et d'œuvres d'art de l'Afrique ont été volés et emmenés sur d'autres continents, en Europe principalement, aux États-Unis. Et ça aussi, c'est un problème. Comment, évidemment, faire revenir ce qui a été volé, ça c'est la moindre des choses, mais aussi comment le faire vivre si quelque chose arrive à Yaoundé, c'est pas évident pour un enfant des États de le voir, etc. Et ce musée vivant utiliserait les moyens de la technologie la plus moderne pour que ça soit présent et pour les jeunes dans n'importe quel coin du pays et d'ailleurs de l'extérieur.
Ce sont le changement de paradigme vers lequel vous appelez les uns et les autres à se diriger?
Oui, on sort d'une longue période dans laquelle l'Occident a imposé l'idée qu'il y avait une seule histoire de l'humanité. Et lui, c'est la locomotive. Donc les autres, c'est des mots qu'on emploie tout le temps. Un pays avancé, pays moins avancé, pays des moins avancés, rattrapage, etc. On entre dans un nouveau monde. Dans ce nouveau monde, la Chine ne demande pas la permission aux États-Unis pour agir et de moins en moins l'Afrique va demander la permission. Et donc il y a plusieurs histoires qui peuvent se mettre en conversation. Je pense que c'est très intéressant pour un Africain de connaître l'histoire de France, mais s'il ne connaît pas son histoire, ça devient négatif. Et donc toutes ces histoires, toutes ces représentations du monde peuvent se mettre en conversation. Et c'est cette conversation que la jeunesse d'ailleurs est déjà en train de faire. La jeunesse des ECA converse avec des jeunes en France grâce au téléphone, au réseau, etc. Et ça, on peut le faire avec les objets remarquables du Cameroun, les mettre en conversation avec le reste du monde en préservant leur singularité, leur particularité par rapport aux autres.
À vous entendre, est-ce qu'on peut dire que le rendez-vous du donner et du recevoir tel qu'il a été théorisé par Senghor est une réalité, est devenu effectif?
Il y a beaucoup de travail à faire. On a encore la tête encombrée d'idées qui sont issues de cette période où on croyait qu'il y avait une seule histoire. L'Europe, c'était la modernité. Les autres, c'était la tradition, etc. Tout ça, il faut se désencombrer l'esprit de ça. Mais c'est à l'œuvre. Un jeune aujourd'hui, un jeune Camerounais, un jeune Malien, un jeune Tanzanien d'aujourd'hui, il est relié en réseau avec le reste du monde. Et quand on prend la parole sur Facebook, on devient le centre du monde. Ensuite, la personne qui va répondre, c'est elle qui devient le centre du monde. Donc on est en train de se construire une représentation des relations sur la planète qui n'est plus une représentation pyramidale, c'est plus une représentation avec un centre et une périphérie. Le centre est partout et la circonférence nulle part. Et ça, c'est déjà à l'œuvre. Ça n'a pas du tout abouti. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Et disons qu'on sent le mouvement en train de se développer. Et de mon point de vue, c'est un mouvement qui est extrêmement sain, extrêmement bénéfique.
Dans le changement de ces paradigmes, mais également dans l'utilisation de ces nouvelles technologies, vous évoquez l'existence de nouveaux nouveaux métiers qui contribueraient à mettre en avant, en scène, ces nouveaux musées vivants, ce serait quel métier?
C'est-à-dire, par exemple, si on utilise la réalité virtuelle, il faut des réalisateurs de films de réalité virtuelle. Mmh. Il faut des gens pour présenter le casque de réalité virtuelle et aider les gens à choisir les documents qu'ils veulent voir, etc. Effectivement, une série de nouveaux métiers. Il faut des informateurs, il faut des gens qui connaissent effectivement là où sont les choses importantes, ce qui mérite la transmission. Donc ça, c'est le nouveau métier, effectivement.
Jean-Louis Sago, enseignant à la base, aujourd'hui homme de culture ou plutôt chercheur, le déclic vient d'où pour cette mutation?
En fait, j'ai été enseignant 2 ans au Mali, quand j'avais entre 21 et 23 ans. Donc là, je me suis fait beaucoup d'amis, je me suis créé une partie de ma vie s'est construite au Mali, et je dirais une partie de ma vie est construite par le Mali, une partie de ma vie est construite par mon pays de naissance, la France, et une autre partie a été construite par le Mali. C'est les hasards de la vie qui l'ont fait, mais ça m'a donné beaucoup de joie, ça m'a donné beaucoup d'amis, ça m'a donné beaucoup de compréhension du monde, et vraiment c'est une expérience que je conseille à tout le monde. On a 2 yeux, c'est bien de regarder avec 2 yeux, moi j'en ai eu 2. Quand on regarde avec 2 yeux, on voit le relief. Quand on regarde avec 1 seul œil, tout est plat. Et la vie m'a fait ce cadeau de me donner 2 points de vision de notre humanité comme nous, qui nous réunit tous. Et ça m'a donné beaucoup de relief, ça m'a fait comprendre énormément de choses dans l'existence.
Votre présence au Mali vous ouvre les portes de la culture dans toutes ses facettes. Cela peut-il permettre de dire que vous êtes désormais un sorcier africain à la peau blanche?
Peut-être pas sorcier, mais en tout cas, bon, ça, on peut dire, ben, je suis un acteur de la vie artistique du Mali depuis une trentaine d'années. Donc, j'ai écrit beaucoup de pièces qui ont été montées là-bas au Mali, qui ont tourné ensuite dans le monde. J'ai écrit le dernier film malien qui a été sélectionné au Festival de Cannes. J'avais écrit un scénario, j'avais proposé l'idée. Donc, je suis vraiment impliqué dans la vie culturelle du Mali. Bon, maintenant, mes frères, mes fils, mes filles, etc. du Mali, la plupart sont musulmans, donc je vais laisser la question sorcier de côté.
Alors, peut-être la question de sorcier de côté, mais la notion d'initié vous conviendrait mieux?
Oui, initié, oui. Là, il y a une ressemblance entre la société malienne et la société camerounaise, la société Bassa. Il y a au Mali des confréries très très importantes, le Comor, les confréries d'Onso, etc., qui ont une tradition. Par exemple, la confrérie d'Onso, qui date de 1000 ans, elle a un patrimoine musical, littéraire, philosophique, culturel extraordinaire. Quand il y a une soirée d'Onso quelque part, vraiment, ça émerveille tout le monde jusqu'à présent. Et puis une richesse. Bon, en Europe, les confréries initiatiques sont rares. Les initiations se font par d'autres voies. Mais ça, c'est qu'on parle de mémoire et des patrimoines. Les confréries ont été des conservatoires du patrimoine philosophique, patrimoine spirituel, etc. Et ça a une grande importance. Et c'est important aujourd'hui qu'elles apparaissent non pas comme des vieilleries d'autrefois, mais comme un endroit, comme un musée d'une certaine manière, comme un musée vivant de l'histoire du pays, de ce qui a constitué l'âme camerounaise ou l'âme malienne, la personnalité, les façons de réagir, etc. Là, il y a un dépôt de richesse de l'esprit vraiment très important, et c'est bien de les mettre en valeur, et c'est bien aussi que les jeunes se rendent compte que ça peut leur faire du bien. C'est quelque chose qui va leur permettre de se tenir bien sur leurs 2 pieds. On ne va pas marcher à leur place, c'est eux qui vont prendre le chemin, c'est eux qui vont explorer la forêt de l'avenir. Mais s'ils ont des bonnes chaussures et des bonnes jambes, ça sera plus facile pour eux.
Vous parliez de regard tout à l'heure. S'il vous fallait poser un regard sur la culture africaine entre force et faiblesse, ce serait quoi?
Bon, déjà, je dirais les cultures africaines, parce qu'il y en a plusieurs. Mais la force, c'est comme toutes les cultures, c'est-à-dire une partie de l'humanité a produit sa représentation à partir de sa culture, et donc c'est une force extraordinaire. C'est des êtres humains qui, collectivement, ont inventé une façon d'être, ont inventé une façon d'agir, etc., de se lier ensemble, et d'autres parties du monde ont fait la même chose. Ça a donné des cultures différentes, et ça, c'est indispensable à l'humanité. L'humanité s'est énormément appauvrie, par exemple, au 15e, 16e siècle, quand les invasions européennes ont détruit des civilisations entières en Amérique. Donc c'est vraiment quelque chose de la grandeur de toute culture, en fait, je dirais. De ce point de vue-là, les cultures africaines sont à la fois complètement spécifiques, singulières, et en même temps apportent la même chose que les autres. La faiblesse, je dirais, la longue domination, la longue occupation militaire de l'Afrique a fait qu'un certain nombre de gens ont intériorisé l'idée qu'ils étaient vaincus, ce qu'ils avaient fait eux-mêmes était moins important que ce qu'avait fait le vainqueur, etc. Tendance à se référer à la culture du vainqueur et à dévaloriser leur propre culture, à la délégitimer. Et ça, c'est lourd jusqu'à présent. Par exemple, je vois ici au
Cameroun.
Beaucoup de gens, quand ils parlent de leur langue, disent dialecte ou patois. Dialecte ou patois, ça veut dire une sous-langue. Donc il y a la langue, c'est le français, et le bassa, ça serait un dialecte ou un patois. C'est des expressions qui signalent vraiment un problème, une réalité. Le bassa est une langue, le français est une langue, c'est deux langues, on a des choses à se dire. On est des êtres humains, donc si le mot ne correspond pas, on peut expliquer. Et c'est très fait, mais pour que ça vive bien, il faut lui rendre sa légitimité. Je suis légitime quand je parle bassa, je suis légitime quand j'ai de la vénération pour les Mombok, je suis légitime dans toutes ces choses-là. Je m'intéresse aussi à la légitimité des autres. On est tous légitimes et on produit l'universalité non pas en s'alignant et en imitant, on la produit en conversant.
Il faut donc sortir du complexe, c'est ce que vous voulez nous dire.
Voilà, c'est très très important.
Dernière question, Jean-Louis Sago-Tuvarou, un mot très rapide sur le Parlement des mots dont vous êtes l'un des théoriciens.
Oui, le Parlement des mots, c'est justement lié à ce que je viens de dire, c'est-à-dire les mots, chaque langue découpe le réel différemment. Donc on va dire, bon, si c'est chien, ça va être chien pour partout. Mais si on veut dire, par exemple, liberté, on va se rendre compte que le mot ne découpe pas exactement la réalité de la même manière. Et c'est très intéressant, je pense, pour un Camerounais ou pour tout Africain, de se dire, tiens, mais comment je dirais ça, citoyen? Comment je dirais citoyen dans ma langue? C'est pas évident, parce que citoyen est un mot qui a été forgé. Mais une fois qu'on a réfléchi là-dessus, on dit, bon, ben, la façon d'être un sujet actif de la vie de ma société ne peut pas être la même que celle des autres pays. Par contre, il y a une parenté entre ces deux, entre les civilisations occidentales qui ont produit le concept de citoyen et quelque chose qui, chez nous, joue le même rôle, c'est-à-dire le rôle qu'un habitant est une personne active dans la vie collective de la cité, dans l'organisation de la cité. Et chaque fois qu'on réfléchit à ces choses-là, ça aide à dépasser ce qu'on disait tout à l'heure, ce complexe. Parce que d'un seul coup, donc on a dit les choses, mais on n'a pas dit les choses de la même manière parce qu'on ne les voyait pas de la même manière. Ça ne nous empêche pas d'écouter les autres, mais au moins là, on est à l'aise. C'est-à-dire quand on a retrouvé, rendu sa dignité, sa légitimité à notre façon de voir, ça nous est beaucoup plus facile de parler avec les autres et même d'ailleurs de les comprendre. Souvent on entend, par exemple, moi je suis frappé, quand j'entends des gens faire des discours, il y en a un certain nombre, on a l'impression qu'ils ne font pas le discours pour parler aux autres, mais qu'ils font le discours pour qu'on dise qu'ils parlent bien français. C'est une façon de se mettre en position d'élève en fait. Il faut que l'Afrique soit maîtresse de son destin. Quand on est maître ou maîtresse, on n'est pas élève.
Dans tous les cas, vous êtes maître du vôtre et vous êtes citoyenne du monde et de l'Afrique en même temps. Écoutez Jean-Louis Sago-Tuvarou, je vous remercie infiniment de nous avoir promené dans les eaux douces et salées de la